Depuis 12 ans que je suis archiviste communal, j'ai eu le temps et de multiples occasions, maintes occasions, de constater combien les archives de notre commune étaient riches. Et j'espère intéresser certains d'entre vous par la découverte de ces documents et les inciter un jour à venir les voir de leurs propres yeux. Mais pour cette première émission, j'ai pensé faire une sorte de panorama de ce que nous allions dire au cours des émissions suivantes et commencer d'abord par quelques précisions qui me semblent utiles. D'abord, les archives, pour beaucoup de gens, c'est un entassement de vieilles choses, et pas plus, poussiéreuses souvent. En réalité, le mot archive ne veut pas dire vieux, c'est un mot très ancien. Les archives, ce sont une collection de documents divers, de chartes, de parchemins, de papiers, qui concernent l'histoire d'un pays. Tout écrit, même actuel, si vous écrivez une lettre, par exemple, elle pourra devenir une archive, à condition que vous la conserviez.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la date du document le plus ancien conservé aux archives de Saint-Antonin ?
Le plus ancien document que nous possédions à Saint-Antonin est daté de 1140. C'est la charte de la commune de Saint-Antonin. 1140, il y a déjà 8 siècles et demi. Cela paraît beaucoup à certains d'entre vous. C'est quand même peu pour nous, puisque nous ne connaissons pas l'histoire réelle, précise de notre ville et de son territoire avant cette date. Et c'est bien regrettable.
Il y a quand même des faits qui vous permettent d'étudier l'histoire avant cette date, l'histoire de Saint-Antonin.
Certes, et nous allons le voir tout à l'heure. Mais si nous n'avons pas d'archives avant cette date, il y a une explication. C'est que ce n'était pas l'usage dans les pays d'Europe occidentale de conserver les documents comme cela se produisait à l'époque des Grecs et à l'époque des Romains. À l'époque grecque et romaine, on conservait les documents d'État, les documents de la vie du pays, d'une façon très minutieuse, en les plaçant à l'intérieur des temples comme des objets sacrés. Les archives de Saint-Antonin, du moins celles que nous possédons depuis 1140, elles ont été conservées, plus ou moins bien, il faut dire, au cours des siècles passés. Actuellement, elles sont dans un local parfaitement aménagé, où elles sont en complète sécurité.
Et tout le monde peut venir les consulter.
Voilà, et tout le monde peut venir les consulter, bien sûr. Les archives dans une commune sont un service public, exactement comme le service de l'état civil. Tout le monde devrait pouvoir les consulter. C'est seulement, voilà, je ne suis pas, moi, employé municipal. Et je ne vais pas tous les jours à la mairie, à 8h, de 8h à midi, de 14h à 17h30, me tenir à la disposition des gens qui veulent consulter les archives. Il est regrettable même que, étant donné la richesse des archives de la commune de Saint-Antonin, notre commune ne puisse pas avoir un employé préposé justement à la réception des visiteurs. Le conservateur n'a pas à être absolument présent pour une consultation de documents. Mais enfin, si quelqu'un a réellement envie de consulter des documents, je suis à sa disposition pourvu qu'il prenne rendez-vous avec moi en temps utile.
Peut-être que nos émissions donneront envie aux habitants de Saint-Antonin d'aller consulter les archives.
Je le souhaite. C'est d'ailleurs pour éveiller un peu l'intérêt pour les archives que, discrètement, depuis déjà plus d'un an, j'expose dans une vitrine de la galerie d'entrée de la mairie quelques documents. Oh, je sais bien, personne ne les regarde, ou très peu les regardent. Mais enfin, il y en a quelques-uns qui les regardent. Et je souhaite continuer et ainsi faire naître l'intérêt pour les archives.
Madame Julien, j'aimerais que vous nous disiez comment vous allez choisir la musique qui illustrera nos émissions.
Eh bien, j'ai pensé qu'il serait intéressant d'adapter la musique au moment de l'histoire présentée. Par exemple, le Moyen-Âge, illustré par de la musique des 13e, 14e ou 15e siècles. Le 16e siècle serait illustré par de la musique de la Renaissance, et même chose pour les périodes suivantes.
Et pour l'émission d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez choisi ?
Pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai choisi de la musique du 13e siècle. C'est de la musique, ce sont des pièces anonymes, jouées à la flûte à bec et parfois avec accompagnement vocal.
Monsieur Julien, est-ce que vous pouvez nous présenter le programme de cette série d'émissions ?
Eh bien, j'ai pensé qu'il serait intéressant de parcourir toute l'histoire de notre cité, à l'aide de documents, bien sûr, depuis son origine très ancienne jusqu'à la guerre de 1914, en souhaitant ne pas lasser l'auditeur, bien sûr.
Non, je ne pense pas que vous lasserez les auditeurs. Alors, vous me dites l'histoire de Saint-Antonin depuis l'origine, avec des documents. Mais vous nous disiez que le document le plus ancien datait de 1140. Alors, comment faites-vous pour découvrir l'histoire de Saint-Antonin avant cette date ?
J'ai bien dit tout à l'heure que les archives étaient une collection de documents, pas forcément écrits. Il peut y avoir des documents qui sont des objets. Et c'est grâce à ça, justement, que nous savons que le site de Saint-Antonin a été habité par les hommes il y a des milliers d'années. Cela grâce aux découvertes qu'a faites notre compatriote Paul Darras, que tout le monde connaît, dont tout le monde connaît les travaux, et qui a découvert à Fontalès les outils, les gravures, tous les témoignages d'un peuple qu'on appelait les Magdaléniens et qui vivait là. Et ce qui nous fait dire que l'occupation humaine à Saint-Antonin est extrêmement ancienne.
Mais Fontalès, c'était en dehors de la ville de Saint-Antonin. Alors aujourd'hui, je crois que vous allez nous parler de Saint-Antonin.
Oui, la ville elle-même, ça c'est plus récent, bien sûr. Ce que nous savons, nous le devons à des chercheurs qui ont fouiller, défricher les textes, certains textes qui se trouvent aux archives nationales, mais essentiellement des textes de caractère religieux et qui se trouvent dans les archives pontificales ou épiscopales et qui ont fait l'objet de longs développements dans un document monumental, extraordinaire, qui s'appelle « L'histoire du Languedoc » de Don Vécette, dont seront extraites toutes les affirmations que je vais aujourd'hui apporter. Ainsi, nous savons, grâce à ces chercheurs, qu'au confluent de la Bonnette et de l'Aveyron, existait déjà, avant le Christ, à l'époque dite gauloise, un village, une agglomération qui s'appelait Condat, au pays des Rutènes. Les Rutènes étaient le peuple gaulois qui vivait dans la province du Rouergue. Les Rutènes ont soutenu tant qu'ils ont pu, jusqu'à la défaite finale de 52 avant Jésus-Christ, ils ont soutenu Vercingétorix. C'était donc Condat, Nous n'avons rien comme document, ni sur l'importance de l'agglomération, ni sur le travail des hommes à cette époque-là. Mais nous savons déjà ça qui est important, c'est que le premier nom qu'a porté Saint-Antonin, ce n'était pas Saint-Antonin, c'était Condat. Condat est un très vieux mot celtique qui signifie d'ailleurs confluent. On le trouve sous d'autres formes. Dans le Lot, vous trouvez Conduché.
Alors, monsieur Julien, Saint-Antonin s'appelait Condat à quelle époque?
Ceci, dans la mesure où on peut en être absolument certain, en tout cas on peut affirmer que c'était au deuxième siècle avant Jésus-Christ, au premier siècle avant Jésus-Christ, et ensuite, après la défaite de Vercingétorix et l'occupation de la Gaule par les Romains, nous sommes devenus des Gallo-Romains. Et ces occupants romains, arrivant ici dans ce pays, découvrant ce site merveilleux, cette espèce de nid entre des collines, ont cru bon d'appeler l'endroit Nobilis Wallis. Et Nobleval a été le deuxième nom de Saint-Antonin.
Monsieur Julien, nous en étions au moment où Condat est devenu Nobleval. Et puis un jour, Nobleval est devenu Saint-Antonin. C'était quand?
Eh oui, mais voilà. Quand? Je n'en sais rien moi-même. Et je pense que personne ne peut affirmer de façon précise à quelle date, à quel moment, en quelles circonstances, Nobleval est devenu Saint-Antonin. Déjà, le mot Saint-Antonin, le nom de Saint-Antonin, fait intervenir un caractère nouveau, particulier, c'est-à-dire le caractère sacré de la chose. La ville a pris le nom d'un saint. Et il est vraisemblable donc que si elle a pris ce nom de saint, elle n'a pu le prendre qu'après le développement du christianisme en Gaule. Mais alors là, les auteurs ne sont pas d'accord. Si l'on en croit certains, comme l'abbé Lafont, il semblerait que ce Saint-Antonin ait vécu au deuxième siècle après Jésus-Christ. Mais c'est une affirmation tout à fait gratuite, qui repose sur des on-dits, sur une tradition sans doute. Le plus ancien document dont on puisse faire état se trouve aux archives du département du Tarn-et-Garonne. Il est écrit en latin. Il est daté du 30 octobre 825. Il relate la visite de Pépin, roi d'Aquitaine, et qu'il ne faut pas confondre avec Pépin le Bref. Hein, c'était son arrière-petit-fils de Pépin le Bref. Il était donc le petit-fils de Charlemagne. Et ici, entre parenthèses, ceux qui affirment que Charlemagne est venu à Saint-Antonin se sont trompés, et se trompent s'ils le disent encore aujourd'hui. Il s'agit donc de Pépin, roi d'Aquitaine, qui vient ici à Saint-Antonin, ou du moins qui vient à Nobleval visiter un monastère. Donc, le 30 octobre 825, il existait un monastère qui s'appelait le monastère de Saint-Antonin. À cette occasion, ce Pépin, roi d'Aquitaine, qui avait sans doute été très bien reçu, qui avait visité auparavant le monastère de Conques, a éprouvé le besoin de faire preuve de générosité à l'égard du monastère Saint-Antonin. Et c'est dans ce texte que, pour la première fois, apparaît le mot Saint-Antonin. Je vous lis ce texte. Je le lis en français, comme il a été traduit par le grand historien de Saint-Antonin, justement, Robert Latouche, qui est le seul qui ait fait une histoire sur Saint-Antonin. Voici ce texte, donc, du 30 octobre 825. Pépin, par la grâce de Dieu, roi d'Aquitaine, lorsque nous faisons des largesses aux lieux qui sont voués au culte, nous sentons très clairement que ces largesses contribuent à affermir notre royauté et à nous obtenir la récompense de la vie éternelle. C'est pourquoi nous voulons notifier à tous les fidèles de la Sainte Église de Dieu, et particulièrement à nos sujets présents et à venir, qu'il nous a plu de donner le monastère de Saint-Théodard, situé dans le Quercy, sur les bords du Tarn, où repose le corps de ce saint, avec tous les biens et les hommes qui lui appartiennent aujourd'hui, au monastère de Saint-Antonin, situé dans le Rouergue et construit en l'honneur de ce saint, à la tête duquel se trouve de nos jours le vénérable abbé Fédancius. Voilà un texte irréfutable. Pour la première fois, nous voyons apparaître, par écrit, monastère de Saint-Antonin. Est-ce à dire que Saint-Antonin se rapporte au monastère? Est-ce à dire que seul le monastère s'appelait Saint-Antonin et qu'il était dans Nobilis Vallis? Le texte ne le précise pas. Mais nous pouvons, avec quelque certitude, donner comme date de naissance de Saint-Antonin, si nous voulons, 825, c'est donc 9e siècle.
Monsieur Julien, vous nous parliez du monastère de Saint-Antonin. Est-ce qu'on a retrouvé des vestiges de ce monastère? Vous pouvez nous en parler un peu?
Des vestiges de l'époque dont nous parlons, c'est-à-dire 825, il y en a très peu. Et seulement, et ça je ne sais pas si les Saint-Antoninois le savent, un tout petit fragment d'un tombeau en marbre blanc qui se trouve habituellement au musée et qui, actuellement, est à la salle des archives. Ce fragment de tombeau a été découvert, encore une fois, par Paul d'Arras dans son jardin à la Condamine. Et le président de la Société archéologique du Tarn-et-Garonne, dans la grande réunion que la Société archéologique avait tenue à Saint-Antonin le 18 octobre 1981, a développer ses conclusions sur l'étude de ce fragment de tombeau de marbre blanc de Saint-Béat, et il a émis l'hypothèse que ce pourrait être le tombeau dans lequel se trouvaient les reliques de Saint-Antonin. Mais ça, nous n'en sommes pas sûrs. Ce dont nous sommes sûrs, comme je le disais tout à l'heure, par le texte de Pépin, roi d'Aquitaine, c'est qu'en 825, il y avait là un monastère très riche et très puissant, qui ne cessera de se développer, et alors des vestiges ultérieurs, nous en découvrons encore aujourd'hui. Mais nous en reparlerons, si vous voulez, une autre fois. Revenons au monastère. Hein? Donc, en 825, le monastère de Saint-Antonin est, avec celui de Conques, l'un des plus riches et des plus puissants. Il y a là, sans doute, à l'emplacement où nous sommes, là, juste à ce studio même, un ensemble qui comporte une église, qui comporte des dortoirs, des réfectoires, une bibliothèque, un scriptorium et tous les bâtiments qui entouraient un monastère. À côté de lui, sans doute, un hôpital aussi. Là viennent régulièrement, là vivent des moines bénédictins, qui entretiennent un culte grâce à ces reliques qui sont précieusement conservées. Et ces reliques, comme c'était la coutume à cette époque de grandes foires religieuses, attirent de très nombreux pèlerins qui viennent. On marchait beaucoup au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui. On n'allait pas en voiture, mais on allait à pied, mais on marchait beaucoup. Et des pèlerins affluaient pour adorer ces reliques qui avaient, comme toujours bien entendu, un pouvoir miraculeux. Aujourd'hui, on ne croit plus à ces miracles de reliques, mais à ce moment-là, on y croyait beaucoup. Et ce que l'on peut dire, c'est que certains de ces pèlerins se sont fixés là autour des monastères. C'est donc en ce point que, plus tard, vers le Xe, XIe siècle, naîtra et se développera la ville. La ville de Saint-Antonin a pour point de naissance un monastère, une abbaye, si vous voulez. D'autres villes ont eu une naissance différente. Par exemple, Verfeil est né au XIIIe siècle. C'est une bastide de la volonté du comte de Toulouse, Alphonse de Poitiers. Il en est de même de Sept-Fonds. Ce sont des villes beaucoup plus récentes. La nôtre a ce titre d'ancienneté dont elle tire gloire.
Donc, monsieur Julien, vous nous avez dit que ce monastère avait donné naissance à la ville de Saint-Antonin. Mais Saint-Antonin, l'homme, vous pouvez nous en parler un peu ?
J'en parlerai difficilement parce que sur cet homme-là aussi, les études sont très nombreuses, innombrables pourrait-on dire, et venant principalement de religieux ou de gens d'église. Au XVIIe siècle déjà, les jésuites bollandistes entreprirent une vaste somme sur la vie des saints, un document qui dura, je crois, dont la rédaction dura près d'un siècle. Et c'est à travers ces études de ces bollandistes que l'on peut essayer de voir qui était Saint-Antonin. D'ailleurs, eux-mêmes, les jésuites, ne sont pas très sûrs. Ils ne savent pas trop qui c'est. Et n'en déplaise à tous ceux qui peut-être croient qu'il est de Pamiers, et on ne le sait pas s'il est de Pamiers. On ne sait pas trop s'il est de Pamiers ou s'il est d'Apamé. Apamé, c'est une ville de Syrie. Et Apamé, Pamiers, il y a peut-être eu confusion entre les deux mots. Et voilà. Enfin, vous voyez comme nous sommes totalement dans l'incertitude. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu certainement un personnage exemplaire au plan de vue religieux qui a existé ici et dans notre région à Condat, à Nobleval plutôt, et qui s'est rendu célèbre. Mais nous n'avons aucun texte et tout ce que nous pouvons dire relève de la légende. Il ne faut pas se moquer des légendes, d'ailleurs. On aurait tort. Le grand Renan lui-même a dit ceci. Il n'y a pas de légende sans histoire. C'est-à-dire, une légende, c'est un conte, c'est une affabulation, c'est quelque chose dont on sourit, qui n'est pas vrai. Mais à la base de la légende, il y a toujours un fait historique. Et c'est ce fait historique que nous ne connaissons pas. L'imagination des hommes, la foi des hommes, a ensuite enjolivé le fait historique pour le transformer. Ce qui est certain, c'est que cette légende de Saint-Antonin, elle est tenace, elle dure encore, et qu'elle a toujours été très populaire à Saint-Antonin. Écoutez, regardez, promenez-vous, allez à l'église, levez la tête au-dessus de la porte de l'église, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une sculpture. Eh bien, cette sculpture représente, c'est un bas-relief qui a été taillé en 1901, c'est pas si vieux que ça, et qui représente la légende de Saint-Antonin. Entrez dans l'église, et tournez à droite, au fond baptismaux, au-dessus des fonds baptismaux, un très grand tableau de Fauconnier, un peintre saint-antoninois. Qu'est-ce qu'il représente? La légende de Saint-Antonin. Et savez-vous avec quoi les consuls de la communauté scellaient leur parchemin? Ils les scellaient avec un sceau de cire qui représentait quoi? J'en ai un sous les yeux là actuellement, et vous pouvez en voir un exemplaire dans la vitrine qui présente des documents dans la galerie de la mairie. Ce sceau, qu'est-ce qu'il représente sur sa face, sur son endroit, sur son avers? Eh bien, il représente aussi la légende de Saint-Antonin. Enfin, quand même, et ensuite, vous pourriez aller, il y a une maison, ici, il y a une famille à Saint-Antonin qui possède un débris de vitrail de l'ancienne église de Saint-Antonin qui représente aussi la légende de Saint-Antonin. C'est donc cette légende de ce saint, dont on ne sait pas s'il était de Syrie, s'il était de Pamiers, eh bien, cette légende était fortement ancrée dans la mentalité, dans la mémoire des Saint-Antoninois, de tout temps, et qu'elle s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Et un pays dont l'histoire repose comme ça sur une légende est un pays merveilleux, vous comprenez, parce que une légende, c'est du merveilleux. Les Grecs, l'histoire des Grecs, vous voyez, repose aussi sur une ville légendaire, et qui est la ville de Troie, sur des histoires légendaires qu'a écrites Homère. Et quand il y a légende comme ça, il y a merveilleux, il y a douceur, il y a beauté.
Alors, Monsieur Julien, vous nous avez dit que Renan, une citation de Renan, où il disait « il n'y a pas de légende sans histoire ». Est-ce que vous pouvez imaginer un peu comment a pu naître cette légende de Saint-Antonin?
Ah ça, comment naissent les légendes? Je crois que c'est difficile à dire. On ne sait pas comment naissent les légendes. De toute façon, peut-être à la raconter, et ça nous la raconterons la prochaine fois, nous comprendrons peut-être, certains d'entre vous comprendront comment elle est née. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est entretenue. Elle prend naissance un jour, et alors, petit à petit, l'histoire grandit, s'enveloppe, s'arrange, et elle se perpétue. Mais enfin, nous remettrons ça la prochaine fois, si vous voulez.